Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend and Bat Reviews qui sera consacré à nos lectures Batman du mois de mars paru chez Urban Comics. Et c'est moi, c'est Nico, et je suis accompagné de trois autres membres de la team Batman Legend. Alors attention, pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir une nouvelle tête. Et pour les autres, vous aurez aussi une nouvelle voix. Alors, pour m'accompagner sur ce podcast, vous voyez ici Benoît.
Salut!
Mais aussi Siegfried.
Tout le monde.
Et enfin, Benoît se voit débarrassé de la place du rookie de la bande, puisque Kevin rejoint la team Batman Legends. Salut Kevin.
Salut tout le monde.
Alors, on est ravis de t'accueillir dans la team, tu le sais, on en a parlé en off. Et tu vas pouvoir te faire les dents dans ce podcast qui sera plutôt court, puisque plus juste trois récits à évoquer ce soir. Donc ça fait un récit chacun, c'est parfait pour te mettre le pied à l'étrier, comme on dit, sur ça. Alors, est-ce que tu veux faire un petit mot d'introduction rapidement? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu ne lis pas, peut-être? Comment tu es rentré dans l'univers Batman? Dis-nous tout.
Voilà. Bah, moi, je suis rentré dans l'univers Batman. Bah, j'ai commencé les comics, moi, en 2011, bah, quand Urban Comics a commencé à les sortir, en fait. Avec, comme tout le monde, je pense, la cour des hiboux. C'est à peu près tout le monde qui a commencé par là. Voilà. Et puis,
à cette période-là, c'est vrai que ça arrivait à ce moment-là. Mais bon.
Voilà. Et puis après, bah, j'ai bien aimé ce récit. Donc après, je me suis lancé dans un peu tout. Je lis aussi du Superman, du Wonder Woman, du Flash, enfin voilà, tout, à peu près tous les personnages de DC. Donc voilà. Puis je suis très content d'être avec vous, et puis je suis content de prendre le relais de Benoît. Comme ça, voilà, il va être libéré un peu.
Ouais, c'est un poids.
Ouais, c'était pas long.
Ça va. Ils sont gentils, ils mordent pas trop. Que la période de pleine lune, c'est tout. Après, je.
Ah, ok.
Enfin bon, on ne révélera pas tout lors de ce podcast. Voilà. Ce qui se passe à la pleine lune reste à la pleine lune. Du coup, je vous propose de démarrer ce podcast un peu plus dans le vif du sujet avec cette première lecture. Alors hop, je reprends mon plan, la première lecture va concerner. Eh bien, on parlait de pleine lune, pourquoi pas parler de Batman Nocturne, tome 3. Deuxième acte qui donc nous présente un récit par Ram V et Van Reis notamment. Et pour nous en parler, je vais lancer Siegfried sur le sujet.
Alors, si vous vous souvenez du podcast précédent qu'on avait consacré à ce volume, on finissait notre avis en se demandant si on attendait vraiment la suite, puisque après le tome 2, on était tous quand même relativement blasés. Et globalement, ce qui avait été conclu plus ou moins par tout le monde, c'était que on voyait pas dans quel monde ça pourrait finir de façon satisfaisante. Ça peut évidemment continuer plus ou moins bien, mais à partir du moment où on a balancé l'invasion zombie les organes qui reviennent après 3 siècles, reconquérir Arkham et plein de concepts qui vont vraiment littéralement dans tous les sens, on ne comprenait pas trop comment ça pourrait trouver une conclusion satisfaisante. Et effectivement, ce volume donne plus de cohérence quand même au chaos qui envahissait les volumes 1 et 2, mais continue quand même sur cette pente où on ne comprend pas trop la place de Batman, on ne comprend pas trop où va Ram V, à part qu'il essaye de poser absolument sa marque sur l'univers DC Comics, mais c'est vraiment... Vraiment, on sait que ça ne sera pas un arc, ça ne sera pas un run majeur de l'histoire de Batman, mais bon, c'est un peu triste déjà au tome 3 de partir de cette conclusion-là. Donc, cette fois, c'est dessiné par Stefano Raffaele et Ivan Reis notamment. Première surprise, c'est que dès le début, on fait intervenir un nouvel antagoniste comme si on en manquait. J'ai envie de dire, l'un des problèmes déjà des deux premiers volumes, c'est qu'il y en avait déjà beaucoup trop et on avait déjà un peu de mal à identifier exactement quelle était la fonction de chacun des organes. Bop, on nous introduit Vandal Savage en plus. D'accord. Petit problème, c'est que Vandal Savage, je vous rappelle qu'il apparaît aussi dans la guerre entre Batman et Catwoman dans les Batman Infinite. C'est-à-dire qu'on a deux versions de Vandal Savage, et c'est vraiment pas le même personnage. Hein. Il n'a pas les mêmes caractéristiques. Enfin, c'est vraiment deux versions du même personnage.
Mais si, il s'appelle Vandal Savage.
Oui, voilà. C'est supposé être le même personnage, mais manifeste. Je ne sais pas par quel bug éditorial. Ils se sont dit, ça, c'est une bonne idée. Parallèlement, dans deux séries simultanées, on va avoir le même antagoniste de deux façons différentes. Et évidemment, du coup, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'il va être battu de deux façons différentes en deux comics simultanés, ou est-ce qu'il va être battu dans Batman Infinite, ce qui veut dire qu'il va être battu hors champ dans Detective Infinite, alors qu'il supposait être central dans les deux continuités. qui sont supposés être la même quantité dans le même univers. Enfin, vraiment, il n'y a aucune cohérence éditoriale dans ce choix. Ça me dépasse juste complètement. Donc, ça commence par ce moment de bug, de bug sidéral éditorial qui, quand même, n'est pas idéal pour bien rentrer dans l'intrigue. L'avantage étant que l'arrivée de Vandal Savage, ça permet de... C'est déjà un pressentiment qu'on avait eu lors des deux premiers volumes, c'est qu'on disséminait par toutes petites touches la présence de la Ligue des Ombres en sous-main. Et effectivement, le volume concrétise ces pressentiments dans le sens où on comprend que les organes sont liés à Ra's al Ghul et qu'il y a un petit lien avec Savage. Donc au moins, il y a une bonne idée de lier trois familles immortelles des comics. Vandal Savage et Ra's al Ghul, on savait qu'ils étaient plus ou moins immortels, enfin pluriséculaires pour Ra's al Ghul et plus ou moins immortels pour Vandal Savage, et les organes font donc partie de ces continuités-là. Et donc c'est plutôt une bonne idée, en introduisant de nouveaux personnages magiques et immortels, de les lier à ces deux continuités, même si ça se fait avec toute la surexplicitation du monde, enfin, et pitié. Déjà, Ram V, ça nous avait un peu saoulé à la fin du premier volume, vous savez qu'on nous raconte ces origines de Gotham en disant que, bah oui, il y a trois siècles, il y avait déjà un homme chauve-souris qui ressemblait à Batman, et il y avait déjà des organes, il y avait déjà, enfin, toute cette idée que la Gotham contemporaine n'est que la suite d'une Gotham qui s'est déjà à trois siècles, donc en fait le Batman qu'on connaît n'est absolument rien d'original parce qu'en fait tout ce qu'il vit a déjà été vécu par ses ancêtres. Enfin vraiment ça, c'était le petit nouveau scénariste qui essaie d'apposer sa marque sur l'univers. Ben là on apprend que Ra's al Ghul est devenu immortel. Évidemment c'est lié aux organes. Enfin voilà, c'est vraiment Ram V qui se dit tiens j'ai inventé des organes. Ben, comment est-ce que je peux les lier au reste de la mythologie DC pour qu'on ne puisse plus parler de personne dans DC sans parler de moi. Ben voilà, on va essayer d'expliquer comment Ra's al Ghul est devenu immortel. Bon super. Bon. Au moins, comme je l'ai dit, l'idée de lier Organ, Al Ghul et Vandal Savage, elle est plutôt intéressante. Pour l'instant, c'est juste lancé comme ça, avec une intrigue complètement cliché dans les déserts d'Arabie, il y a plusieurs siècles, enfin un truc vraiment limite raciste, mais au moins l'idée en soi est maligne, donc on va voir comment s'exploiter par la suite, parce que pour l'instant, c'est juste balancé comme ça. Encore une fois, on a un comic où les trois quarts des conflits, littéralement, seraient résolus si les personnages discutaient entre eux. À chaque fois, ils se tabassent pendant 20 pages, et à la fin, on se rend compte que bah oui, en fait, si tu avais expliqué pourquoi tu étais venu, vous ne seriez pas battu et l'intrigue aurait avancé. Bon, c'est toujours un peu blasant parce que les exemples sont un prétexte alors à montrer des bagarres et des bagarres et des bagarres et à faire durer. Voilà, on aimerait bien que l'intrigue avance aussi. Les interludes ne sont pas forcément hyper intéressants. On a même un interlude sur la jeunesse d'Arzem, donc qui est le principal des organes. Mais du coup, on ne comprend pas trop pourquoi c'est un backup alors que le reste de l'origine des organes et même le reste de l'origine d'Arzem est raconté dans la continuité. Pourquoi est-ce que la moitié est dessinée en backup, l'autre en continuité? Enfin bon, c'est un peu bizarre. Le plus intéressant, c'est encore un backup de Dan Waters qui est dessiné par Aidan Sherman. C'est assez splendide graphiquement. C'est sur l'homme aux 10 yeux. Donc c'est un personnage qui était complètement mineur dans les deux premiers volumes, mais qui au moins est intriguant. Donc là, pareil, on ne sait toujours pas quel est le lien avec le reste. Et ça commence à faire beaucoup de personnages. Vous vous souvenez aussi de cette espèce de pseudo Nightwing, en fait, le personnage qui a un aigle dans le dos. Pareil, on ne sait toujours pas quel rôle il a. Bon, il y a peut-être un moment où il va falloir arrêter d'introduire un nouveau personnage et commencer à expliquer qui sont ces personnages. Parce que si on attend 10 volumes, on sait qu'on ne sera pas satisfait par la résolution que ça va avoir. Donc autant essayer de commencer à divulguer un peu ces renseignements. Et encore, bon, dernier coup de gueule, je promis.
Non, mais j'ai compris, il n'y aura pas l'alerte Siegfried, j'ai compris.
Pas pour celui-là, en tout cas. On a encore un numéro avec des cauchemars de Batman. Et est-ce qu'on, c'est pas le troisième ou quatrième volume en 2-3 mois où Batman a des cauchemars? Enfin, est-ce qu'on n'a pas un peu marre de ce cliché de... Moi, j'aime bien, parce qu'évidemment, Batman, c'est un personnage qui est tellement névrosé que montrer ses cauchemars, c'est toujours le moment de dévoiler des choses assez intéressantes sur son intimité. Mais il y a peut-être un moment où... On l'a vu, on l'a revu, on l'a revu, y compris dans les deux continuités, dans les deux magazines de la même continuité, il y a peut-être un moment où on se dit que c'est un peu éculé, qu'il va falloir raconter autre chose, peut-être qu'il va falloir montrer de l'intrigue plutôt que de faire durer avec des cauchemars. En tout cas, un numéro qui est dessiné par Dustin Nguyen, qui n'est pas du tout en forme, on se demande même ce qu'il vient faire là. Donc l'idée, c'est que, évidemment, comme c'est des cauchemars, ça peut être dessiné par un artiste différent, sauf que même les moments qui ne sont pas dans le cauchemar sont aussi dessinés par Nguyen, du coup, ça ne marche pas du tout en termes de cohérence. Ensuite, il est remplacé par Franck Avia pour les mêmes cauchemars. Donc pourquoi est-ce qu'un changement graphique, au moins Franck Avia, il est vraiment en forme. Et la suite des cauchemars est dessinée par Aaron Campbell, mais cette fois c'est dans les backups, alors que les précédents cauchemars étaient dessinés dans la continuité. Mais pourquoi? Enfin bref. Et le pire, c'est que tout ça, c'est suivi par Night Terrors. C'est-à-dire que vous avez les cauchemars...
Ah, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé.
Exactement. Ouais, ouais. Mais c'est-à-dire que vous avez les cauchemars de Detective Comics Infinite qui sont immédiatement suivis par les cauchemars de Night Terrors. Sauf que Night Terrors, on ne sait pas trop comment ça se passe dans la continuité, mais c'est pas les mêmes cauchemars. Mais si vous lisez ça un peu rapidement, vous voyez, il y a des cauchemars, il y a des cauchemars avant, il y a des cauchemars après, c'est les mêmes cauchemars. Ben non, c'est des cauchemars dans des arcs qui sont complètement distincts. Donc c'est vraiment extrêmement bizarre de les présenter de cette manière-là. Et alors, le plus étonnant, c'est que ces Night Terrors, c'est de très loin, non seulement les meilleurs Night Terrors, Mais c'est aussi de très très loin ce qu'il y a de mieux dans ce volume-là. Donc ça met complètement à l'amende Ramvé et Batman Nocturne. Parce que cette fois, l'idée, c'est raconter les cauchemars des citoyens de Gotham. Et c'est dessiné par Riccardo Federici. Et c'est juste extraordinaire. Parce que Federici, cette fois, il s'inspire par Olivier Ledroit, donc, notamment qui dessinait les Requiem chez les vampires, et par Clive Barker. Donc de loin en loin, évidemment, s'inspirer par Drouilly Lovecraft. Et c'est la première fois dans les Night Terrors qu'un dessinateur, et sans doute le scénariste aussi, enfin, ont des idées visuelles pour raconter quelque chose qui est vraiment inquiétant, où on se dit, tiens, il y a vraiment une mythologie dans ces cauchemars, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas juste une espèce de dérive de forme, d'organes et de sang comme dans les autres. Là, il y a vraiment un artiste qui s'est demandé comment puiser dans les plus grands chefs-d'œuvre de la narration graphique cauchemardesque quelque chose qui puisse être lié à Batman, et il en fait vraiment quelque chose qui est assez percutant. Mais bon, comme on sait que Night Terror, c'est tout pourri, ça diminue un peu l'impact de ça. Voilà, du coup, c'est un
De
peu.
suite.
Bah, quand... On est tous d'accord là-dessus. Et c'est pas de faire semblant de défendre Night Terror. On est tous d'accord depuis le début là-dessus. Donc c'est presque étonnant que ces 40 dernières pages soient infiniment meilleures que tout ce qui précède. Ce qui précède étant important si vous suivez les Nocturnes, parce que pour le coup, enfin il se passe quelque chose. Alors que le tome 2 était quand même une grosse parenthèse. Mais encore une fois, on ne sait toujours pas vraiment où ça va. Ça raconte toujours pas vraiment grand-chose. Mais essayez au moins de feuilleter ces Night Terror, parce qu'en termes de vision de Federici, ça vaut quelque chose et ça vaut le détour.
Ok, alors tu vois, j'avais du mal à me relancer dans Nocturne que j'ai arrêté à partir après le tome 1. Je vais avoir du mal à me relancer encore. Il va
Oh, je pensais
falloir
l'avoir si bien
trouver.
vendu, tu me déçois.
D'ailleurs, si vous avez remarqué que personne n'a réagi hein, sur les propos de Siegfried, c'est parce que ben, personne dans l'équipe n'a lu ce tome 3 pour l'instant de Batman Nocturne.
Personne n'a envie.
Donc,
Si, attends, attends, j'ai ouvert la première page, j'ai dit, ah, mais ça me plaît pas pour l'instant, je reviendrai plus tard.
Moi, j'ai
Donc
juste
voilà.
feuilleté, j'ai regardé, mais après j'ai arrêté. Ouais.
Voilà, donc voilà. Pour ce Batman Nocturne tome 3 qui visiblement ne fait pas grande réussite auprès de Siegfried. Et puis j'ai l'impression qu'effectivement c'est assez global. Bon, pas d'alerte Siegfried sur ce Batman Nocturne. Les amis, je vous propose d'enchaîner avec une autre lecture. Alors une autre lecture qui fait elle aussi partie de la continuité. Et je vais lancer notre nouvel arrivant, notre rookie, comme on dirait, avec Kevin. Kevin, tu vas nous parler de Batman et Robin, Dynamic Duo. Hop, je mets la cover juste ici. Et cette fois, c'est Joshua Williamson qui revient sur du Batman et Robin, accompagné notamment de Simone DiMeo, même s'il n'est pas le seul sur ce volume.
Ouais. Bah, je suis très content de m'appeler le rookie. du coup, moi j'ai beaucoup apprécié ce tome-là. Moi j'étais assez surpris d'ailleurs du scénario par Joshua Williamson parce que il avait fait déjà d'autres séries qui n'étaient pas top. Je crois que c'est lui d'ailleurs qui a écrit Night Terror. Il me semble, hein, oui. Et
Je sais pas s'il les fait tous, mais
bah, c'est lui qui chapeaute en tout cas l'ensemble
c'est
des
lui
lecteurs.
qui, ouais. Et puis non, et puis moi franchement j'ai beaucoup aimé déjà l'histoire. Donc ça parle de, on suit bien alors Batman et Robin du coup qui essayent d'arrêter un crime qui se passe dans un dirigeable. Et donc là on a un nouveau personnage qui est introduit qui s'appelle le Lapin Blanc.
Non, non, le PM là existe déjà. Hein.
Je crois qu'il existe déjà, oui, il
C'est
me semble
plutôt
qu'on l'a vu, mais il
Soupir
y a longtemps.
c'est plutôt
C'est
Soupir qui.
Soupir, oui.
Ouais.
Soupir, d'ailleurs, qui a un nom assez bizarre. Parce que Soupir, bon, pour moi, c'est un peu. C'est pas très crédible, quoi, comme surnom. Soupir.
Mais moi, c'est le truc que j'ai fait quand je l'ai vu.
Voilà, c'est ça. C'est exactement à ça que j'ai pensé aussi. Mais donc, du coup, voilà, on suit un peu. Cette enquête, du coup, parce que du coup, Batman et Robin vont voir que ce cambriolage dans ce dirigeable en fait a une autre histoire. En fait, ça part vraiment sur autre chose, pas un simple cambriolage ou autre. Et en même temps, on va suivre aussi la relation entre Batman et Robin. Alors, au niveau de la timeline, c'est un peu confus parce que je sais pas trop si ça se passe après Gotham War ou avant ou en même temps. Parce que à un moment donné, Batman, bah en fait, il héberge Damien chez lui. Il lui explique que voilà, avec ce qui se passe entre Catwoman et toute cette histoire, bah voilà, tu viens habiter chez moi. Bon, parce qu'on je saurais pas trop où la situer parce que ils étaient un peu en embrouille, Damien et son père pendant Gotham War. Et là, on les retrouve tel un père et un fils qui s'entendent plutôt bien. Et lui, il vient chez lui, mais bon, voilà, on ne sait pas trop où la situer. Et sinon, au niveau de, bah, on a un peu on a un bon ressenti. Enfin, je veux dire, c'est plutôt pas mal la relation qu'ils ont entre Batman et Robin. Ils ont une bonne relation père-fils qui évolue. Et j'ai beaucoup aimé, moi, cette évolution par rapport au tome d'avant, ce qu'on a pu lire surtout dans les Robin Infinite
Ouais.
ou
Où
le
il y
truc
avait,
là, qui s'appelle
c'était quoi? C'était
Lazarus.
Batman versus Robin, non? Ils n'avaient pas fait un truc comme ça?
Si, si.
Ouais, oui, c'est ça. Et donc là, on a une belle évolution, on a plutôt un bon truc, surtout au niveau du personnage de Damian qui a franchement beaucoup évolué. On voit tout de suite que c'est, enfin, là, on a plaisir à le lire. Si on compare tout ça avec le Robin, la série Robin Infinite en 3 tomes, bah, enfin, voilà, on apprécie vraiment ce personnage-là dans celui-ci. Il est beaucoup plus mature, beaucoup plus réfléchi. Enfin, il prend même des bonnes décisions maintenant. Enfin, voilà, c'est
C'est
plutôt bon.
vrai qu'on retrouve un Robin plus mature que ce qu'on a l'habitude
Ouais.
d'avoir, notamment Damian,
C'est ça.
sur d'autres récits. Après, bon, il y a cet aspect où il essaie de le mettre au collège, quoi, ou au lycée, je sais pas trop.
Ouais.
Enfin, c'est un peu particulier, mais oui, on retrouve un Damian Wayne, je suis d'accord avec toi, Kevin, plus mature.
Plus mature, et puis même au niveau de l'histoire, du coup, c'est quand même beaucoup plus centré sur Damien, parce que avec tout ce qui se passe avec Soupir, bah, ça a un lien en fait avec son passé qu'il a eu avec la Ligue des Assassins. On voit d'ailleurs, il y a un peu de flashback à chaque début de
Ouais, il y a
chapitre.
pas mal de flashbacks, ouais.
Et ça, c'est vraiment c'est intéressant, quoi. C'est vraiment, je trouve que l'histoire est bien menée, elle est bien écrite. Là, on a une vraie enquête, surtout aussi, qu'on avance, au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. Voilà. Au niveau des dessins, par contre, c'est Simone DiMeo, je crois, qui dessine
Ouais,
pratiquement tout le récit.
Simone Dimeo, ouais.
Et j'ai trouvé que c'est un excellent dessinateur, mais j'ai trouvé que par contre le défaut, c'est qu'il zoome trop en fait. On voit trop Batman et Damian, vraiment, on dirait ils sont face à nous, quoi. Il y a pas du tout de décor autour. Et ça, du coup, on a du mal à les situer. On sait où ils sont forcément, mais enfin, c'est trop zoomé, quoi. Du coup, on
Ouais,
voit
ça
rien de ce
t'a
qu'il y a
bien. C'est
autour.
vrai que j'entends pas mal de critiques sur les dessins de Simone DiMeo, que ce soit sur la colorisation d'ailleurs, parce qu'on trouve que c'est assez flashy, le style est assez dynamique et flashy, soit sur le style en lui-même, puisque. Alors d'ailleurs, je tiens à préciser, je crois que la couverture qu'on voit là, c'est pas lui. Je suis pas sûr,
Non,
mais je crois
c'est
pas.
pas lui.
Ouais, et parce que c'est des dessins très géométriques qui font presque manga par moment. Et c'est vrai que
C'est
c'est
ça.
assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, personnellement, j'aime bien, mais je peux comprendre que ça rebute un peu à la lecture, certaines personnes qui accrochent pas au style.
Bah après, moi aussi, j'aime beaucoup, mais c'est des très beaux dessins. C'est juste que voilà, on est trop face à l'action. On voit parfois, on voit juste le poing ou un pied dans une case. Donc voilà, c'est trop zoomé, quoi. Mais bon. Après, je crois que vers la fin, ça change. On passe à un autre dessinateur qui est
Ouais, pour
Michael
l'annual.
Ranin. Voilà, pour non, pour
Un
vers
an
la
avant
fin,
l'annual,
c'est.
oui.
Ouais.
C'est vrai qu'il y a Ranin
Et
qui intervient aussi, oui, c'est vrai.
après, oui, il y a l'annuel. Ouais. Mais sinon, ouais, plutôt vraiment positif comme histoire. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça vaut le coup. Franchement, moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à autre chose, vu ce que j'ai lu de Joshua Williamson
Ouais.
sur pas mal de récits. C'était plutôt pas terrible. Là, franchement, je trouvais qu'il est bien remonté. Et c'est vraiment très agréable à lire. C'est super. Par contre, je noterais juste une erreur aussi au niveau des dessins. Je pense que là, on peut le dire avec ce qui s'est passé dans les Dark City, Batman, il a la main coupée. Et là, dans ce récit-là, bah, il a plus la main coupée. Je sais pas si on a remarqué, mais dans tous les dessins, il a retrouvé sa main.
Ouais, alors peut-être que ça se passe avant. Moi, je ne l'ai pas lu dans Dark City, je me suis arrêté pour l'instant qu'au tome 1, je crois. Mais du coup, je sais plus, ça se passe dans le tome 2, non?
Oui. Ça se
Ouais,
passe dans le tome 2, oui.
ouais,
Et
donc
après, on
peut-être
voit
qu'ils
bien la
estiment que
différence.
enfin, peut-être que ce récit était positionné juste avant. le tome 2 de Dark City, on se pose la
question. Je pense pas, mais on peut toujours se dire qu'il a une prothèse réaliste.
Ouais, voilà. C'est Batman, ouais, bon. Quoi.
Voilà. J'allais dire, c'est Luke Skywalker, mais c'est pas...
Il a rendu la main à Luke Skywalker. Il a rendu la main robotique. Non, mais je m'attendais à ce genre d'erreur, parce que c'est un peu... c'était clair que ça allait pas suivre correctement, mais bon. Voilà, c'était...
Mais sinon, ouais, après, c'est vrai que du coup, il ne s'embête pas avec ce détail-là, ouais, effectivement.
Voilà, c'est ça.
Moi, je te rejoins, tu vois, plutôt sur ça, parce que j'ai trouvé ce récit intéressant. Et notamment, par rapport à la continuité principale, on en parlait d'ailleurs avec Benoît dans la semaine, mais c'est vrai que moi, je me suis un peu lassé là, de la continuité principale, dans le sens où je trouve que c'est de moins en moins intéressant, ou en tout cas, ça ne propose rien d'hyper intéressant. Donc, du coup... je commence à m'enlacer. D'ailleurs, Batman Nocturne, bah, vous voyez, je me suis arrêté au tome 1. Pareil pour Batman Dark City. Et j'ai du mal à continuer parce que je fais passer d'autres lectures avant, etc. Parce que ça m'a lassé. Et je me suis dit, je vais essayer ce Batman et Robin Dynamic Duo. Et effectivement, j'ai pris plus de plaisir que sur la continuité classique des Batman. Pourtant, je ne suis pas hyper fan du travail de Joshua Williamson d'habitude. Je trouve que c'est pas mal, mais sans plus. Et là, pour le coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça mieux que ce que j'ai l'habitude d'appréhender chez lui. Donc voilà, pour mon avis.
C'est pour ça que même pour moi, ça remonte un peu au niveau des récits, ce tome-là. Enfin, il vient un peu sauver le tout, parce que c'est vrai que Dark City, là, c'est pas vraiment top.
j'ai du mal aussi. Ouais.
Donc voilà. Après, juste à la fin de ce récit, il y a un annuel, c'est vrai, qui... Pour moi, on peut vraiment s'en passer, quoi.
Oui, totalement. Oui. Bah, c'est vrai que la plupart des annuels sont. La plupart des annuels sont de ce calibre-là, c'est-à-dire, sont pas forcément obligatoires à lire. Ouais. Mais certains proposent des choses très intéressantes, d'autres un peu moins. Bon, là, il y a une histoire de camping entre père et fils et ils démantèlent un groupe de chasseurs. Qui assassinent des gens dans un camping, etc. Donc, c'est distrayant tout au plus, peut-être.
Surtout qu'on avait dans le récit Dynamic Duo, donc la série principale, on a un Robin qu'on voit qui est clairement très intelligent et tout ça. Et puis là, dans cet annuel, il se retourne vers son père et il dit « Père, c'est quoi un road trip ?»
pour jouer avec le perso, puisque il n'a pas eu l'enfance classique, dirait-on.
C'est ça. Ouais. Donc bon, ça servait un peu d'excuse pour partir hors de Gotham et aller faire du pique-nique avec des tueurs.
Ouais. C'est ça. Benoît, de ton côté, est-ce que ça t'a toi aussi réconcilié un petit peu avec les récits de la continuité?
Gentiment, alors moi j'ai beaucoup de problèmes avec le dessin de Dimeo.
Tu fais partie de ceux qui en accrochent pas du tout.
Ouais, c'est vraiment pas un dessin qui me plaît. Je trouve que ça fait vraiment très très numérique, même si c'est peut-être pas le cas. Je sais pas du tout comment il travaille, mais je trouve que ça fait vraiment très très numérique.
C'est dessiné à la main.
Ouais, c'est peut-être les couleurs qui rendent ça, mais c'est quelque chose qui me plaît pas. Mais bon, après l'intrigue elle est assez classique, j'ai envie de dire. C'est une aventure, oui, presque banale, une enquête avec des super méchants qu'on connaît, qui sont des vieux super méchants qu'on ressort un petit peu. Le lapin blanc, qui est, on dirait presque ils veulent la faire devenir une espèce de nouvelle petite Catwoman, pourquoi pas. Voilà, qui les aide. Cette nouvelle méchante Soupir, pourquoi pas? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de créer une nouvelle méchante pour ça? Je suis pas sûr à 100%.
On verra. Il y a un côté un peu énigmatique où tu sais pas justement qui c'est. Il y a un peu ce délire à la silence, d'ailleurs, il évoque un peu dans le récit, le délire à la silence où en gros tu te dis il y a forcément un lien avec le passé et tu sais pas qui se cache derrière ce personnage-là. Et est-ce que c'est machin, est-ce que c'est pas machin? Et donc, il y a peut-être ce côté un peu... Pour mettre un peu d'intrigue dans le récit, quoi.
Oui, c'est oui.
Bon, mieux vaut qu'ils inventent un nouveau personnage. J'imagine, ils auraient pris Vandal Savage comme super vilain.
Ça aurait été très drôle. Ça aurait été très, très drôle.
Ils auraient fait une trilogie avec Vandal Savage.
C'est ça. Mais bon, après, le coup des flashbacks, etc., Voilà, ce qui m'a intéressé, évidemment, c'est la relation entre les deux personnages qui sont intéressants, entre Batman et Robin. Je trouve Robin un peu plus. Moi, j'aime bien Damian Wayne, j'aime bien son côté arrogant,
Ouais.
casse-couille, voilà,
Un
enfant
peu moins le cas du
terrible.
coup là.
C'est un peu moins le cas, il est un peu plus assagi, un peu plus réfléchi, ce qui est pas mal non plus, hein, pourquoi pas. Je trouve, je vais pas spoiler, mais je trouve que la réflexion qu'il a à un moment donné dans le récit, avant le dernier chapitre, en disant que, bah, attention, il y a ça qui est évident pour tout le monde, pour le lecteur, et que du coup, ça fait un peu penser à bonjour, je suis Clark Kent, bonjour, je suis Bruce Wayne, enfin, je suis Superman, vous m'avez compris. Voilà, mais du coup, je trouve ça très. Très sympa de pas nous faire encore une intrigue où ça va durer pendant 10 épisodes où il sait pas un truc que tout le monde voit. Donc
Ouais.
ça c'est sympa. Donc oui, ça se laisse lire avec plaisir et c'est sûr que c'est un peu plus sympa que la continuité principale. J'attends quand même de voir avec Williamson parce que des fois il a des bonnes idées et après ça part un petit peu en sucette. Il fait beaucoup ça. Le premier tome de Robin Unit était sympatoche. Après, c'était beaucoup moins. Ce qu'il a fait sur Night Terror, c'est une catastrophe. Même ce qu'il avait fait sur Lazarus Planet, etc. Donc, bon, voilà, j'ai un petit peu des réticences vis-à-vis de ce scénariste. Donc, j'attends. J'attends.
Ok, wait and see. Siegfried, pour ta part, est-ce que je sonne l'alerte, Siegfried, ou pas?
Ah non, pas du tout. Non.
Non! Déjà, enfin.
Non!
Non, mais comme on l'a un peu pressenti dans vos réponses, ça ne peut pas réconcilier la continuité dans le sens où quand on le lit, on a l'impression que c'est déconnecté de la continuité, alors même que ça en fait partie, comme l'a très bien dit Kevin, effectivement, il y a cette petite réplique de Bruce qui est vraiment la seule petite réplique pour rappeler, attention, on est en continuité, on n'oubliait pas, parce qu'on pourrait l'oublier, ou effectivement, il dit, vu ce qui se passe avec Catwoman en ce moment, c'est mieux que tu viennes vivre chez moi, sachant que ça n'a évidemment absolument aucun sens, puisque si ça a du sens, c'est-à-dire que c'est la conciliation avec Damian après leur bagarre dans la Gotham War, mais à ce moment-là, le manoir n'appartient plus à Bruce Wayne puisqu'il appartient à Vandal Savage. Ou alors, c'est juste avant la Gotham War, mais c'est
C'est
le
pas
moment où il se
clair.
passe des trucs pas bien avec Catwoman. Donc, en fait, quoi, de quelque manière qu'on le positionne dans la Gotham War, ça n'a pas de sens. Donc, oublier juste la Gotham War, de toute manière, ce qui va se passer dans ce Batman et Robin et le duo n'aura aucun impact sur la Gotham War, puisque sans Gotham War écrite par Starsky, et on sait très bien qu'avec le chaos éditorial chez DC Comics, aucune des revues n'est cohérente avec les autres. Enfin, on vient de le voir avec Vandal Savage. Là, ça va être exactement la même chose. Autant que possible, essayer de maintenir chacun son domaine réservé pour raconter sa propre histoire, en essayant de pas être trop incohérent avec les autres, mais justement en essayant de garder chacun ses plates-bandes. Donc, ce qui va se passer dans la Gotham War n'aura pas d'impact ici. Ce qui va se passer ici n'aura aucun impact sur la Gotham War. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ce ton si particulier dans Batman et Robin Dynamic Duo, parce qu'on est dans quelque chose qui va être beaucoup plus léger, justement pour compenser. Ce qu'on va voir dans les autres fascicules de la continuité, et pour essayer d'éviter de marcher sur les plates-bandes, même si ça n'a pas grande cohérence. Effectivement, le but, c'est donc de focaliser sur la relation entre Batman et Robin. Un Robin Damian qui est peut-être un peu trop mûr, effectivement. On se demande si ça, c'est le premier volume. Bah, en fait, il n'y a plus aucune marge de protection pour Damian parce qu'il est déjà correct. En fait, il n'est pas si différent d'un Tim Drake, par exemple, à part le passif qu'il a avec ça, évidemment, mais il est déjà plutôt posé, plutôt rigolard avec son père. Bah, Bruce est même extrêmement souriant avec lui. Enfin, ils ont déjà une dynamique qui est extrêmement joyeuse et bienveillante, qui n'a absolument rien à voir avec leur relation dans les autres fascicules. Donc, bon, c'est pour ça, il faut pas trop s'attendre à la suite. Et je pense que chacun de ces volumes va devoir être lu indépendamment parce qu'on se fiche un peu de comment ça va continuer dans le sens où ça ne pose pas non plus des rails pour une grosse intrigue. Finalement, ce qui se passe avec le Lapin Blanc, moi, je l'ai oublié aussitôt lu. Ça a vraiment, à part la relation entre Batman et Robin et cette intrigue effectivement autour de l'école et du passé de Damian qui ça est un peu intrigante. Toute l'intrigue avec le Lapin Blanc et les animaux et le Zeppelin, enfin c'est des choses dont on se fiche complètement, qui n'ont aucun impact et qui n'ont même pas vocation de devenir importantes. Donc à la rigueur, et même quand vous apprendrez, enfin le petit twist autour de qui est la super vilaine. La coïncidence, elle est tellement ridicule que ça dit déjà le ton de la série, qu'effectivement, entre légèreté et sérieux, d'ailleurs, dès le quatrième de couverture, on vous dit Gotham est devenu une jungle criminelle, tous les super-vilains sont alliés, il y a même un nouveau super-vilain qui a eu une vengeance criminelle contre Batman, mais mince, comment est-ce que Damian va combattre alors qu'il doit aller à l'école? Bon, ça, c'est littéralement le quatrième de couverture, donc déjà, vous vous dites, ouais, bon, on n'est pas effectivement sur le grand récit cosmique qui va redéfinir, qui va tuer tout le monde. On est sur quelque chose. Et justement, c'est assez chouette parce qu'on est sur un ton très particulier entre cette légèreté et quand même quelque chose qui finalement est presque plus intriguant que ce qui va se passer dans Gotham War, parce qu'au moins vous n'avez pas levé les yeux au ciel toutes les deux secondes sur les grosses ficelles, parce que vous laissez juste porter par l'intrigue telle qu'elle veut se raconter, sans y accorder trop d'importance. Vous savez que Joshua Williamson non plus n'accorde pas trop d'importance à ce qu'il est en train de raconter, donc c'est ce qui fait, à mon avis, que ça se lit effectivement sans déplaisir, sans intérêt particulier. Ça, c'est un récit extrêmement mineur qui va rester très mineur, mais au moins ça se lit avec un certain plaisir. C'est dommage qu'il y ait ce balai de dessinateur, parce qu'effectivement, bah, personne n'a le style de d'Imeo, donc avoir un dessinateur différent pratiquement sur chaque fascicule, soit ça augmente juste l'incohérence globale. Moi, j'aime bien le style d'Imeo. Je comprends totalement l'épuisement que ça peut procurer, parce qu'effectivement, c'est un style qui est tellement dynamique et très riche. Chaque case semble n'avoir aucun lien avec la case précédente. Et c'est assez amusant. À un moment, on a juste un Damien qui marche dans un couloir d'école et on a l'impression que c'est que ça va à toute allure, alors qu'il est juste en train de marcher tranquillement dans un couloir, parce que juste cette manière de ouais, de choisir un plan différent et de créer un dynamisme de fou dans chaque vignette donne fait que même la scène la plus posée sera extrêmement dynamique, donne l'impression d'être dans tous les sens, extrêmement chaotique et vivante. Donc c'est un style, moi j'adhère assez, surtout que, comme dit, c'est ce style un peu manga, ça colle aussi au fait que l'intrigue est très différente du reste. Autant avoir ce style là tout à coup dans Batman Infinite, ça n'aurait juste aucun sens, autant l'avoir là pour, de toute manière, un comic qui a déjà un ton si particulier, c'est pas très grave si on ne suit pas l'intrigue comme dans un vrai récit de combat, ou s'il n'y a pas de grande pause lyrique comme on peut l'avoir avec d'autres dessinateurs. Là, c'est un style particulier pour un récit au ton particulier, donc pourquoi pas. Contrairement à vous, pour finir, moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'annual, j'ai même trouvé que c'était le meilleur le meilleur moment qui est dessiné par Rod Porter, parce que pour le coup c'est vraiment uniquement 40 pages. Effectivement, c'est juste un petit road trip où Batman et Robin se retrouvent tout à coup enfermés dans une forêt où des chasseurs mènent des chasses à l'homme, et l'un de ces chasseurs sera Bruce Port, mais eux croient qu'ils vont s'attaquer à Damian et Bruce Wayne. Évidemment, ils ne savent pas qu'ils s'attaquent à Batman et Robin. Et évidemment, Batman et Robin, comme ils étaient en road trip pour camper, n'ont pas tout leur équipement de Batman et Robin. Donc, c'est juste une histoire de survie extrêmement légère, mais quand même avec cet enjeu assez sombre. Et je trouve que c'est un bon condensé en juste 40 pages de tout ce qui est raconté par ailleurs dans les 200 autres pages de Batman et Robin David Duo. C'est-à-dire comment ces deux personnages vont devoir retrouver par leur alchimie un moyen de coopérer pour surmonter cette épreuve avec beaucoup de... à la fois combativité et beaucoup de légèreté. Du coup, c'est extrêmement, c'est très joyeux, c'est très drôle, c'est très humain. Leur relation, elle est très bien définie. Enfin, c'est une excellente synthèse de tout ce qui précède. C'est très joli, très joliment dessiné par Rod Parter. Donc, moi, j'ai vraiment bien aimé. Donc, voilà. C'est, comme dit, c'est un volume qui est vraiment très mineur. Donc, il faut vraiment rien attendre. Et vraiment, vous attendez pas à ce que la suite soit meilleure que ce qui est là. Mais, ça se lit plutôt bien. Et si vous en aviez marre des guéguerres permanentes et complètement incohérentes entre les personnages de la Bat Family, ça fait du bien de temps en temps de retrouver ces... Même si c'est complètement incohérent avec le reste de la continuité, ça fait du bien de retrouver ces relations un peu humaines entre les personnages.
Tout à fait. Donc, vous l'aurez compris, si vous êtes un maniaque de la timeline principale, ouvrez vos chakras avant de lire Dynamic Duo. Donc, je vous propose d'enchaîner avec une nouvelle lecture. Ça sera la dernière de ce podcast, les amis. Avec Batman Superman World's Finest, tome 3. Et je passe la parole à Benoît pour nous en parler.
Oui, donc c'est toujours scénarisé par Mark Waid et dessiné par Dan Mora, qui fait, si je dis pas de bêtises, mais qui fait l'ensemble de l'album. Donc ça, c'est quand même...
C'est rare, on peut le souligner.
C'est rare, voilà, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié pour ça. C'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Et d'avoir enfin un album avec un seul dessinateur, ça, c'est rafraîchissant. Donc c'est une nouvelle aventure de Batman et Superman, toujours dans le passé, hein, puisque Mark Waid adore cette période là où c'était un peu le Golden Age, là où tout se passait. Il va y avoir le meurtre de Simon Stagg, que peut-être vous connaissez, puisqu'il est, c'est un riche homme d'affaires qui est à l'origine, ça dépend des versions, mais il est en conflit avec un super-héros qui s'appelle Métamorpho. Et cet homme-là va mourir, il va être assassiné, et on va accuser Bruce Wayne de ce meurtre-là. Et donc, il va y avoir évidemment toute une enquête, toute une bonne partie qui est que l'ensemble des super-héros, puisqu'on va avoir énormément d'équipes qui vont qui vont affronter une menace commune, globale. On retrouve même une équipe comme la Doom Patrol, comment ils s'appellent, les quatre... je ne sais plus.
Metal Men.
Il y a les Metal Men, mais non, c'est les quatre... j'ai un trou de mémoire, c'est dommage. Quatre hommes qui sont en violet, là, toujours. Ah, les Challengers. je crois que c'est ça. C'est
les Challengers. De l'inconnu, oui.
Voilà, c'est ça. Qui sont très rares. C'est des personnages hyper, hyper secondaires. Mais voilà, on sent que Mark Waid aime ces personnages secondaires, aime aller piocher dans tout le vivier de DC Comics. Et c'est plutôt sympa. Les dessins sont très colorés. Hein, c'est du... voilà, Dan Mora vraiment va chercher dans une palette de couleurs assez importante pour montrer quand même une certaine joie, je pense, sur ces super-héros. Ça se fait vraiment penser à ce qu'on lisait avant. Il y avait pas, c'était avant l'âge sombre, avant Frank Miller, etc. C'était des héros de pulp. Et c'est quand même assez rafraîchissant. Les intrigues sont ce qu'elles... Enfin, c'est pareil, voilà. Ce qui est au niveau du dessin, au niveau de l'intrigue, etc., on retrouve tout ce qui était du Golden Age, quoi, de quelque chose d'assez simple, mais efficace. Et du coup, on a une aventure qui va quand même assez rapide, enfin, qui est très rapide, mais qui permet de poser quand même pas mal de bases et pas mal de personnages, de présenter pas mal de personnages. On retrouve énormément de vilains qui sont autour des robots. Donc le docteur Ivo, etc. Magnus, enfin bon, il y en a plein. Et franchement, pour moi, c'était la meilleure lecture. C'est rafraîchissant. Ça permet de poser un peu totalement le cerveau, mais de se laisser vraiment conduire là, par Mark Waid. J'étais un petit peu sceptique avec le premier volume de World Finest. Mais finalement, ça va, ça se lit bien. C'est vraiment du dehors continuité. Et j'ai l'impression, voilà, de revenir à mes premières lectures. Donc, moi, je suis plutôt favorable à ça. Et j'attends vraiment la suite, voir savoir comment il va twister tout ça avec les univers qu'il avait déjà créés auparavant.
D'accord, c'est intéressant parce que tu vois, moi j'avais lu le premier tome et j'avais pas plus kiffé que ça, tu vois. Bon, je trouvais que c'était sympa, mais sans plus, en tout cas, de mon côté. Et après, j'avais pas fait la suite et il me semble que vos avis étaient très positifs pour le tome 2 également. Et là, encore une fois, pour le tome 3 de ton côté, Benoît. Kevin, tu rejoins l'avis de Benoît sur ce tome 3 ?
Pas tout à fait. Moi, j'ai complètement détesté ce récit.
Ok.
Alors, je le précise, j'ai beaucoup aimé le premier tome et surtout le deuxième. Le deuxième, pour moi, c'est le meilleur. Et à la fin du tome 2, donc on a un cliffhanger, donc on attend la suite. Et là, avec ce tome 3, on part carrément sur autre chose. Et le problème, c'est que c'est un récit très, très court. Et on dirait qu'il a été compacté parce qu'on part sur quelque chose d'assez gros. Et au début, moi, j'avais lu le résumé au dos du livre, et ça parle principalement d'une enquête sur un meurtre, donc Simon Stagg. Mais ça, c'est juste le résumé du premier chapitre. Tout le reste, à partir du deuxième chapitre, ça part complètement sur autre chose. Pour moi, c'est autre chose. Ça a un lien, mais c'est autre chose. Et ça, pour moi, ça m'a posé un petit problème, parce qu'après, on n'est plus du tout sur une enquête. On part sur de l'action pure et dure et tout ça. Après, ça reste sympa à lire, bien sûr. C'est voilà, c'est frais, on n'a pas besoin de lire un million de choses avant.
Oui.
Mais j'ai trouvé que l'histoire aussi allait super vite, parce qu'il n'y a que 5 chapitres. En plus, dedans, on a Métamorpho qui est introduit en 3-4 pages. Donc moi, je ne connaissais pas du tout le personnage. Donc là, j'apprends un peu ses origines et tout ça. Mais le problème du personnage de Métamorphose, c'est qu'au début, il est bien présent dans le récit, je trouve. Mais après, il va disparaître au fur et à mesure. On le voit, je trouve qu'on le voit de moins en moins et qu'il sert plus vraiment à grand chose, en fait, à la fin. À la fin, il sert plus vraiment à grand chose. Et voilà, je sais pas, j'ai pas vraiment accroché. Puis en plus, on a le titre en plus qui s'appelle tome 3 élémentaire, donc c'est censé être une grosse enquête. On s'attend à quelque chose. Enfin, moi, je m'attendais à quelque chose vraiment de comme une vraie enquête, quoi. Voilà, avec moins d'action un peu. Et au final, non, on a beaucoup plus d'action. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plus énervé, c'est que on dit tout de suite dès le début que Bruce Wayne, il est accusé du meurtre. Donc, on le voit aller en prison. Enfin, on voit qu'il a arrêté. Mais dès qu'on tourne la page, il est tranquille dans sa Batcave en train de siroter son café. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Enfin, nous, on avait envie de savoir quelles étaient les preuves que Jimmy Olsen avait trouvées contre lui, parce que c'est clairement lui qui l'envoie en prison. En plus, on ne voit pas trop quelles sont ses preuves, les preuves qu'il a contre lui. De ce que je me souviens du récit, on ne les voit pas du tout, en fait, ces preuves-là. On ne sait pas d'où il les a cherchées. Et puis là, on s'attend à voir Bruce Wayne en prison, voilà, ça va compliquer les choses, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Bah non, finalement, on tourne la page, bah il est libéré de prison, et voilà, on passe à autre chose, allez, on continue l'histoire. Et j'ai trouvé aussi que Dan Mora, bah, ça, c'est un excellent dessinateur, mais on dirait qu'il avait du mal à faire le récit. On voyait que ses dessins était en lien avec l'histoire, mais on avait l'impression qu'il devait raccourcir un peu les choses. On avait des passages où Métamorpho, il disait à un moment donné, il faut pas rentrer dans cet endroit-là, et la case juste après, bah, il est déjà dedans en train de faire autre chose. Donc je trouvais que c'était assez rapide au niveau des dessins et du scénario, ça suivait, c'était rapide, quoi. Mais bon, c'est sympa à lire, mais voilà, c'est pas non plus, enfin du moins ce tome 3, franchement, moi j'ai été très déçu.
C'est marrant. Benoît a beaucoup aimé, Kevin beaucoup moins. Siegfried, de ton côté, c'est à toi de trancher.
Non, je serais du côté de Kevin. La plupart des critiques qu'il a émises, je les avais notées aussi. Bon, on se souvient que le premier tome, j'avais trouvé vraiment catastrophique. C'était sur le diable Neza. En plus, vraiment, Wade faisait que lancer des trucs qui allaient être ensuite poursuivis dans d'autres fascicules qui n'étaient plus scénarisés pour lui. Donc, c'était vraiment. Enfin, c'était à la fois nul et extrêmement bizarre. Le deuxième tome était beaucoup plus agréable parce que ça n'avait plus rien à voir avec le premier. C'était juste l'histoire de ce jeune homme qui arrivait d'une autre dimension avec des super-pouvoirs. Enfin, du coup, c'était beaucoup plus humain. Je trouve que c'était vraiment des dynamiques de personnages focalisées sur une seule nouveauté. Et donc, forcément, l'intrigue était beaucoup plus linéaire, beaucoup plus simple. Et Wade pouvait un peu y être à son meilleur. Et là, il part à nouveau sur autre chose avec un récit collectif et collectif. Par collectif, je veux dire collectif au sens où l'entend Wade, c'est-à-dire collectif avec 100 personnages. Donc, c'est encore une autre dynamique un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de guéguerre entre Mark Wade et Geoff Johns sur comment retrouver l'espèce d'esprit de l'âge d'or avec des super-héros qui sont souriants, qui sont bienveillants, qui ramènent aussi beaucoup de super-héros complètement oubliés des années 40, 50, 60 pour créer des nouvelles dynamiques avec beaucoup de couleurs. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette volonté de renouer avec tout ça. Et tant mieux, parce qu'effectivement, Wade et Jones ont toujours été caractérisés aussi par cette volonté d'un retour à super-héroïsme pré-Watchmen, en gros, pour le dire grossièrement. Sauf que Jones, quand il le fait, il a son Dawn of GSA, dont on avait dit quand même pas mal de bien, et il a 300 pages pour écrire le premier volume, alors que, comme on dit ici, là, Mark Wade, il a 5 fascicules pour raconter toute son histoire. Et effectivement, on ne comprend rien. Comme l'a très bien relevé Kevin, le premier fascicule, effectivement, nous donne l'impression d'une enquête. Avec Jimmy Olsen est persuadé que Bruce Wayne est coupable et qu'il a tellement de preuves qu'il peut en faire la une de son journal au point que Wayne va en prison. Comment est-ce qu'on peut raconter ça sur plusieurs pages sans qu'on n'a pas la moindre idée de quels sont les éléments qui ont pu persuader Olsen que Bruce était coupable? C'est quand même étrange de nous balancer ça, mais de même pas nous dire comment Olsen a pu être manipulé par les faits, qu'un hypothétique super-vilain a pu mettre en place comme fausse preuve pour faire accuser Bruce Wayne. Non, c'est juste que Bruce Wayne a toutes les preuves contre lui et va en prison. Curieux, et bon, effectivement, Bruce Wayne est totalement libre après, donc quel est le sens de tout ça? C'est quand même étrange. Et effectivement, pour une intrigue qui se veut policière, en fait, c'est juste un enchaînement de bagarres qui n'a absolument plus rien à voir avec l'enquête annoncée au début. Et même sur Simon Stack n'a absolument plus aucun impact. Enfin, vraiment, c'est écrit d'une façon qui est extrêmement... extrêmement bizarre, on a l'impression qu'il y a une bagarre entre deux scénaristes qui veulent raconter des choses totalement différentes, alors qu'en fait c'est le même qui raconte une seule histoire, donc c'est vraiment, on ne comprend pas trop, et effectivement il y a un problème de développement des personnages aussi. Au début on se dit, pendant le premier fascicule, Jimmy Olsen apparaît beaucoup, et effectivement comme dit, voilà, il y a cette mauvaise déduction au sujet de Bruce Wayne, donc on se dit, ben c'est intéressant, du coup peut-être que cet arc va être l'occasion de davantage montrer Jimmy, ses conflits de loyauté avec Clark, sa relation avec Bruce, sa place un peu dans l'univers d'ici. Mais non, en fait, la suite ne parle absolument plus de lui. Ah bon, d'accord. Puis effectivement, on nous dit que Métamorpho, en fait, est extrêmement important parce que c'est le suspect principal. Et on nous raconte rapidement ses origines. Donc on se dit, bon, Métamorpho va être un peu le personnage secondaire important, quoi. Le vieux personnage un peu oublié des lecteurs qu'on va un peu remettre sur le devant de la scène. Mais en fait, non. Comme a dit Kevin, effectivement, il disparaît ensuite pour une bonne partie de l'intrigue. Au point que quand il réapparaît à la fin, on avait complètement oublié qu'il était supposé être là. À un moment, on nous parle tout à coup beaucoup des Metalmen de Magnus, et effectivement, les Metalmen sont au centre de cette histoire qui parle beaucoup d'androïdes et de manipulation robotique. Et le docteur McBeal, celui qui a forgé les Metal Men. Donc on se dit, bah, d'accord, le but de Wade, c'est de remettre sur le devant de la scène les Metal Men et le docteur Magnus. Ben non, en fait, on parle effectivement un peu beaucoup des Metal Men, et puis tout à coup, on n'en parle plus du tout. Et Magnus, il est important pendant une page, et ensuite, on n'en parle plus. Mais qu'est-ce que tu veux nous raconter, Wade? Il y a un moment, il faut choisir. Parce qu'effectivement, comme dit après, on a un peu Challengers of the Unknown, on a plus, tous les personnages robotiques de l'univers d'ici, d'où qu'ils viennent, qui sont impliqués. Et on a carrément toute la Justice League qui apparaît. Donc, on a un mélange de nouveaux et d'anciens, ce qui peut être très intéressant. Et Zeus, pour le coup, il avait très bien fait de ne via ça, où effectivement, il y avait des personnages qui étaient totalement inédits, des personnages qui étaient les sidekicks des héros de Terre 2 dans les années 40. Enfin, vraiment, il allait chercher des trucs de sous les fagots qui mélangeaient avec des personnages beaucoup plus connus, des personnages beaucoup plus secondaires. Mais tout ça, en donnant quand même une caractéristique à chacun qui faisait qu'on parvenait à identifier des gens. Là, on n'en identifie rien. Et pire, chaque fois qu'on se dit, bon, je vais m'attacher un peu à un tel personnage, il a l'air important, on dirait que Wade a envie d'insister sur lui. Mais il ne faut pas, en fait, parce que vous êtes encore plus frustré que tout à coup ces personnages disparaissent. Donc vraiment, ça n'a l'entreprise dans laquelle se lance Wade ici, pour moi, n'a aucun sens, parce qu'on aboutit juste à une espèce de fatigue visuelle avec beaucoup trop de personnages dont aucun n'est caractérisé, avec une intrigue qui est juste frustrante, parce qu'elle aboutit juste à une succession de bagarres qu'on n'a même pas de plaisir à suivre, puisqu'on sait qu'à tout moment, il y a 25 autres personnages qu'on n'avait pas vus avant qui vont intervenir. Donc, quel est l'intérêt? Où est la lisibilité? Où est l'intrigue là-dedans? Tout ça avec une espèce de volonté de sérieux qui est un peu bizarre, parce qu'effectivement, ben, on nous parle à un moment quand même, Batman et Superman sont emprisonnés par un mystérieux super-vilain qui manifestement est capable de retirer leur pouvoir à tous les super-héros, de contrôler tous les robots de la planète et d'avoir des super-pouvoirs de dingue. On se dit, ah ouais, effectivement, ça pourrait être la nouvelle grande intrigue cosmique. Mais non, en fait, on est déjà au troisième fascicule sur cinq, ou des cinq fascicules, l'intrigue sera déjà résolue. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Ouais, c'est quand même celui qui a écrit Kingdom Come, je rappelle. Enfin, c'est un des plus grands scénaristes des années 2000. Pourquoi est-ce qu'il se vautre dans cette espèce de méga-intrigue compressé en cinq fascicules, et en plus même pas efficacement, parce que c'est Wade pour le coup qui choisit, même si, peut-être qu'il a été compressé au dernier moment en cinq fascicules et que du coup il était frustré de devoir raccourcir son intrigue, mais c'est lui qui choisit d'impliquer son personnage, c'est lui qui choisit que tout le premier fascicule va lancer une enquête qui en fait n'aura pas lieu, donc ceci est un peu sa faute, c'est lui qui est supposé savoir synthétiser son intrigue pour essayer de la rendre intéressante, et là pour le coup c'est juste un délire qui fait l'exact contraire de ce que ça voudrait faire, c'est presque une insulte à l'âge d'or, parce que c'est vraiment dire, regardez, les scénaristes qui essayent de faire revivre l'âge d'or, bah en fait, ils font juste du gros n'importe quoi en mélangeant tout et n'importe quoi, et ça aboutit à un délire coloré et folklorique, parce que finalement, c'est tout ce qui reste. C'est du folklore, mais sans aucune personnalité, sans que rien soit mis en valeur.
Oui.
Donc, ça aurait pu être un joyeux chaos, au moins ça, et en fait, c'est juste vain.
Ok.
Juste aussi, il y a deux ouais. choses que je voulais dire aussi. C'est que ce qui est assez incroyable, c'est que c'est bien de faire revenir aussi tous ces personnages-là. Sauf qu'à un moment donné, je sais plus trop quand, Batman, il dit à tout le monde quoi faire. Donc, il dit, toi, tu fais ça. Et il dit à Wonder Woman et Robin, vous allez voir tel personnage. J'ai oublié le nom de ce personnage. Et même nous et Robin, on se dit, ouais, d'accord, pourquoi? Donc, même nous et Robin le dit lui-même. Et nous aussi, on se dit, oui, d'accord, mais pourquoi tu veux que j'aille chercher ce monsieur? Et au final, quand Wonder Woman et Robin vont aller le chercher, et que Batman veut prendre des nouvelles, il dit alors, c'en est où? Bah, écoute, rien de neuf, il nous a rien dit. Enfin, et ok, t'as réussi à introduire ce personnage-là, qui était important hein, quand même, hein, mais au final, il sert à rien. Il était juste là pour dire, voilà, je l'ai mis dedans, et c'est tout, voilà, on parle d'autre chose. Donc, c'était. Il voulait prendre une direction scénaristique, mais au final, qui sert à rien, quoi, parce que c'est. Tu l'as introduit, bah c'est bien. Voilà.
Moi, j'ai l'impression que depuis en fait le début, on va enlever peut-être le premier tome, mais ils tissent un peu une toile en mettant en place pas mal de choses, peut-être pour le futur. Et
bah, j'ai vu que alors dans la VO, j'ai aperçu des dessins qui vont être pour le prochain Dark City. Je sais qu'il sera un peu relié avec. J'ai vu ça.
Oula, oula.
Ouais. Ce scénario-là, il y aura un petit peu dans Dark City. Ouais, ouais, j'ai vu ça, j'ai aperçu ça. Donc, à voir.
Ok.
Remarque, du Dan Mora dans Dark City, moi, je signe.
Alors, dans le dessin, c'est pas Dan Mora.
Ah, bah merde, alors. Eh ben, voilà,
ça, tu ne l'auras pas, Benoît. Voilà.
On aperçoit l'un des vilains qu'on voit là dans ce récit-là et quand j'ai vu ça, je dis bon, ok, on va voir ce que ça va donner. Et puis c'est vrai que pour en revenir au dessin compacté dans le récit, les preuves de Jimmy Olsen, C'est vraiment une page. Dan Mora, il a fait une cover en fait de Jimmy Olsen où on voit le personnage avec à l'intérieur de lui, on voit que voilà, il a interrogé des gens, il a fouillé, tout ça. Et ça revient au fait que bah, les dessins ont été compactés pour le récit. Sans dialogue ni rien, on voit que Jimmy Olsen, oui, ok, il a fouillé, il a fait des preuves, ok, on sait rien.
Ouais, c'est vraiment
Ouais.
survolé. Bon, ok. Du coup, je ne sais pas trop quoi penser, moi, de mon regard extérieur, mais chacun se fera son avis sur ce récit, les amis. En tout cas, merci pour votre participation à ce podcast. J'espère que Kevin, ça aurait été agréable, cette première pour toi. En tout cas, c'était chouette de t'avoir avec nous. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés jusqu'au bout, qui ont eu ce courage-là, et n'hésitez pas vous aussi à nous laisser vos avis sur les récits du mois, donc que ce soit en commentaire sur bâtonlegion.com, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, comme vous en avez l'habitude, que ce soit pour les commentaires ou même pour dire bonjour à Kevin, pourquoi pas. En tout cas, merci à tous et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao!
Salut!
Salut!